Plaisance, dans la cité mariale, 96.
Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Avons-le, l'arrivée des catéchumènes nous a pris de court. Ces chercheurs de sens, ces personnes assoiffées d'amour viennent bouleverser nos habitudes. Pour les accueillir, pour les fidéliser, la vie paroissiale doit s'ajuster. Elle doit changer de culture. C'est en effet le propos de l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Convertissons-nous, cette mission qui nous est confiée. C'est le premier ouvrage de l'abbé Guillaume Souris-Laverne, publié aux éditions Première Partie. Et nous sommes avec cet auteur depuis Cahors, les studios de Radio Présence. Bonjour Père. Figeac.
Figeac, chère Isabelle. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, bonjour à Enzo et Armand qui sont derrière les consoles.
Voilà, c'est un bonjour général que nous entendons ce matin. Vous êtes prêtre du diocèse de Cahors depuis 2006 et actuellement curé de Figeac. Merci de vous rendre ainsi disponible pour nous partager votre expérience. Je voudrais qu'avant de plonger dans le cœur de votre livre, vous nous indiquiez pourquoi vous l'avez écrit, tout simplement. Pour quelle raison ?
La jeunesse de cet ouvrage, en fait, c'était pas quelque chose qui était préparé. C'est que, au début, je voulais simplement faire un rapport à mon évêque sur les choses que je voyais dans le diocèse, les choses que j'appréciais, etc. Et puis les choses dont je voyais qu'on était un petit peu, à mon sens, en retard. Voilà. Donc j'ai collecté un certain nombre d'informations. Je me suis beaucoup renseigné. J'étais très curieux. Beaucoup de paroissiens m'ont invité à participer à des congrès, à lire de la littérature sur les paroisses. Et puis, au fur et à mesure, le rapport était en train de grandir. Et finalement, j'ai compris que ça pouvait être autre chose que quelque chose uniquement réservé à mon évêque. Et puis, j'espère du coup que ça sera vraiment très profitable pour tous les paroissiens et tous les prêtres de France.
Oui, parce que justement, votre livre s'adresse aux prêtres et aux paroissiens. Il n'y a pas qu'une seule catégorie, on va dire, qui doit changer. Votre livre pousse à un changement de culture. Je le disais en introduction, il y a ces catéchumènes qui poussent la porte de nos églises. Qu'est-ce que ce vent de fraîcheur vous suggère pour l'Église de France ?
Alors en fait, pour moi, j'ai la lecture de ce phénomène, non pas comme quelque chose qui serait un hasard. Il y a aujourd'hui dans notre Église quelque chose qui se passe, qui était absolument inattendu il y a ne serait-ce que 5 ans, quand je repense à ma vie de prêtre. C'est cet afflux qui est vraiment très important. Encore ce dimanche à la messe, j'avais un jeune homme qui est venu me dire, c'est la troisième fois que je suis venu à la messe et aujourd'hui je viens avec mon petit frère, c'est la première fois qu'il vient à la messe et je voudrais demander le baptême. Eh bien, ce phénomène est absolument inattendu parce que, si vous voulez, avec tout ce qui nous est arrivé dans la figure, les abus, etc., vraiment, on était des losers. Vraiment, il y avait une espèce de spirale qui nous entraînait vers le bas. Et je crois que le Seigneur est en train de nous dire, OK, les gars, vous y arrivez pas. Eh bien, c'est moi qui vais bosser. Et vraiment, les personnes qui nous arrivent, j'allais dire, c'est vraiment les envoyés de la Providence. Et pour moi, en fait, ça serait très grave de pas comprendre, en fait, que c'est le Seigneur qui lui-même nous dit quelque chose au travers de ces personnes qui arrivent. Il est en train de nous dire, c'est mon église, je suis là, et maintenant, vous voyez, moi je crois, enfin en tout cas c'est vraiment ma lecture, je pense qu'il faut vraiment que nous nous adaptions à ce que le Seigneur veut.
Oui, et donc s'adapter, ça veut dire qu'il faut accueillir ces personnes à évangéliser. Comment cet accueil se manifeste-t-il, Père Guillaume Souris-Laverne ?
Alors, c'est exactement ça. Il faut vraiment s'adapter en accueillant ces nouveaux venus. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, il faut comprendre. Vous avez parlé d'un changement de culture, c'est tout à fait vrai. Si vous voulez, nos paroisses, elles ont été façonnées au cours du temps. On les a labourées d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, cette culture interne, elle est plus vraiment adaptée à des personnes qui n'ont plus aucun code. Voilà, les gens qui viennent ici, ils n'ont pas du tout d'a priori, vous savez, nos petites querelles de clochers, tradis, pas tradis, progressisme, ça n'a aucune espèce d'importance pour eux. Ils arrivent avec au cœur un désir, rencontrer Jésus. Et en fait, nos paroisses, elles ne sont pas calibrées pour ça, parce qu'elles ont été façonnées pour qu'on puisse s'occuper du troupeau qui est déjà dans le bercail. Mais en fait, le Seigneur, n'oublions pas ce qui nous, son grand appel dans l'Évangile, c'est quand même d'aller chercher la brebis qui est perdue. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher les brebis qui ne sont pas dans le bercail. Et ça, je crois, vous voyez que ben voilà, l'Église, elle s'est un petit peu... c'est normal, hein. Elle s'est installée, nous nous sommes installés, nos habitudes, nos petits fonctionnements, etc. Eh bien, en fait, cette réalité, elle n'est plus du tout adaptée à ceux qui arrivent. Et donc, il faut vraiment qu'on change. Voilà. Et je crois que c'est vraiment le Seigneur qui nous donne un petit peu un coup de pied au derrière, mais enfin, c'est presque.
Oui. En tout cas, c'est l'aiguillon qui nous met en route. En fait, vous expliquez dans votre livre qu'il faut changer aussi de schéma, un peu changer de logiciel, puisqu'on avait cette habitude de foi où on respecte des rites, on suit des rites, on a cette croyance et ça nous amène à une appartenance à l'Église. Et puis finalement, c'est l'inverse. C'est un schéma inverse qu'il faut adopter avec, comme vous dites, ces nouveaux croyants et ces chercheurs de sens qui veulent d'abord une appartenance.
Oui, alors voilà, là, en fait, c'est plutôt une analyse qui vient du père James Malone, qui a été un grand précurseur dans l'Église ces dernières années pour la conversion de nos paroisses. En fait, si vous voulez, son analyse, il montre un peu de manière sociologique qu'aujourd'hui, le premier besoin des personnes qui arrivent dans l'Église, c'est pas d'avoir un système de pensée qui soit très cohérent et une connaissance absolue du catéchisme. Le premier besoin fondamental de ceux qui frappent à la porte de l'Église, c'est la fraternité. Mmh. C'est-à-dire, ils ont besoin d'entrer dans une famille, d'adhérer à cette famille et d'être partie prenante de cette famille. Et ça, vous voyez, vous touchez un point qui est qui nécessite une vraie conversion pour nous. Parce que est-ce que dans nos paroisses, on est habitué à laisser la place, à donner des services, par exemple, à des personnes qui débarquent? Eh bien, je pense que la plupart du temps, non. Eh bien, ça doit changer. Voilà, le service dans l'Église, ça doit être d'abord le plus grand des services, c'est de savoir accueillir ceux qui arrivent. Et parfois, savoir les accueillir, c'est savoir leur laisser toute la place.
Mmh. Oui, et ça, c'est pas facile, mais vous avez raison, c'est une attention très, très importante à avoir. Vous l'avez mentionné, outre l'arrivée des catéchumènes, il y a cette crise ecclésiale qui se manifeste par la baisse du nombre de pratiquants et de prêtres, les abus, les querelles de chapelle, etc. Certains peuvent être tentés par le découragement, d'autres par l'inertie. Inertie ou carrément le repli sur soi. Et vous invitez à un changement profond, un changement que vous avez initié dans votre paroisse de Figeac à travers une conversion pastorale. Dans cette conversion pastorale, le prêtre est le premier à devoir se convertir. On pourrait se dire, bon, c'est un peu facile parce que ça voudrait dire que les laïcs font tout bien. C'est pas en tout cas ce que vous dites dans votre livre. Par quoi passe cette conversion pour que les prêtres soient des pasteurs selon le cœur de Dieu?
Alors évidemment, ça c'est la partie, si vous voulez, où je tremble quand j'en parle devant vous. Parce qu'évidemment, appeler à la conversion et d'abord reconnaître que la conversion, elle est déjà personnelle, voilà, c'est... Vous voyez, on mesure toujours, quand on écrit quelque chose ou qu'on exhorte, on mesure toujours la distance qui existe entre ce qu'on voudrait, ce à quoi on est appelé, puis ce qu'on vit. Et je suis le premier à devoir me convertir. Mais c'est vraiment... Vous savez, le titre de cet ouvrage, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est l'éditeur qui me l'a proposé, parce que en lisant le livre, voilà, il m'a dit, moi je pense qu'il y a vraiment au cœur de votre ouvrage, il y a la conversion. Alors la conversion, c'est d'abord au cœur de l'Évangile. C'est le Seigneur qui nous appelle, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc c'est vraiment un appel qui vient du Seigneur. Et très concrètement, pour nous, pour notre façon de faire, j'ai identifié trois grandes voies, on va dire, dans lesquelles nous avons besoin de nous convertir, me semble-t-il. Et encore une fois, d'abord de manière personnelle. Alors la première voie, c'est celle de faire de nos paroisses d'authentiques lieux de prière, pas uniquement des lieux de culture catholique, mais des lieux de prière. Nos églises doivent être des lieux de prière, des lieux où vous voyez des paroissiens qui rentrent, qui vont prendre le temps de s'agenouiller, qui vont passer du temps devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, etc. Vraiment, voilà, je crois que nous avons vraiment besoin de passer d'une sorte de culture catholique à la mise en œuvre de notre foi catholique, c'est-à-dire d'un amour réel pour le Seigneur. tout ce qui existe aujourd'hui au niveau du Sacré-Cœur, eh bien, c'est retrouver, voilà, on va au Seigneur par le cœur. Il se donne, il donne son cœur. Et cette relation personnelle que nous devons avoir avec le Seigneur Jésus, c'est ça qui est à la base, qui doit être à la base de notre action dans la paroisse.
Et ça, ça veut dire qu'il faut découvrir peut-être l'oraison silencieuse alors.
Ah ben exactement, vraiment, effectivement, vous tapez très juste. Voilà, si nos paroisses étaient vraiment des lieux où on apprenait à nouveau à prier, et d'ailleurs, il le faut, puisque aujourd'hui, ceux qui débarquent, en fait, ils ont aucune. Même la prière, si vous voulez, ils ne savent pas faire. Ils vous disent ce que je fais bien, ce que je ne fais pas. Il y en a certains, ils croient que la prière, c'est des formules, etc., etc. Donc, premièrement, développer ou redévelopper. Un esprit de prière, voilà, c'est un peu le curseur. On peut voir la mesure de notre conversion. Si jamais on voit les gens de plus en plus, voilà, utiliser leurs églises, voilà, avoir manifesté une relation d'amour finalement avec le Seigneur.
Et puis utiliser les églises, c'est aussi la possibilité de prier en dehors des messes, puisqu'on sait bien que dans les petits villages, il n'y a pas des messes tous les dimanches dans chaque église. Et donc, ça peut être aussi une façon d'habiter et de prier dans ces églises.
Ben exactement. Et puis d'abord, ça voudrait dire aussi qu'elle puisse être ouverte à la prière. Vous savez que ça, c'est un grand défi dans nos paroisses et d'abord chez moi. Parce qu'il y a des lieux où il faut trouver quelqu'un pour ouvrir l'église. Il y en a qui ont peur d'ouvrir l'église parce qu'il peut y avoir des bêtises, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que vous avez raison. Ça fait partie des petits éléments, mais qui sont uniquement comme des symptômes, si vous voulez. La réalité la plus profonde, c'est voilà, faire grandir entre nous. Et on peut s'entraider pour ça, l'esprit de prière dans la paroisse. Ça, c'est le premier point.
Et alors, avant d'aborder le deuxième point, j'aimerais bien venir sur un petit exemple que vous avez donné dans votre livre, puisque vous proposez, en tout cas, vous avez mis en place cette proposition que vous faites aux parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, justement de venir à ces temps de prière. En fait, on a un peu l'impression que c'est comme dans l'éducation, les parents prient et donc les enfants vont les imiter. Et là, c'est un peu les paroissiens prient et donc les petits nouveaux qui frappent à la porte vont se dire « Ah, en fait, c'est ça la relation avec Jésus ».
Oui, ben c'est exactement ça. L'idée, c'est de pas uniquement en rester en termes d'un discours théorique, mais de montrer que voilà, les parents d'enfants qui demandent le baptême, par exemple, ce sont le profil habituel, si vous voulez, c'est quand même des parents qui sont souvent, en tout cas chez nous, en dehors de la vie habituelle de l'Église, de la pratique. Et là, en fait, l'idée, c'est de leur dire, c'est pas uniquement de leur dire, c'est bien de prier, c'est bien d'aller à l'Église, etc. Au cours de la préparation au baptême, par exemple, on va dans l'église et on va prier. Il y a un petit temps de louange, il y a un petit temps d'adoration en silence. Et c'est une découverte que les gens peuvent faire. Et ce qui est sympa, c'est quand il y a des retours où les gens disent « Ah ouais, c'était vraiment bien, etc. etc. » Et c'est vrai que vous avez raison, parce que en fait, dans ce livre, j'ai essayé d'être très pratique. C'est-à-dire, pas uniquement dire « c'est un beau discours », etc.
Mais c'est concret.
L'idée, c'est un retour d'expérience. Et je me dis, si c'est possible, franchement, si c'est possible dans notre paroisse, une quarantaine de clochers, 45 kilomètres de large, une petite ville de 10 000 habitants au milieu, etc. Si c'est possible chez nous, c'est vraiment, je suis convaincu que c'est possible partout ailleurs.
Oui.
Alors ça, c'était notre premier point,
Isabelle.
Ça, c'était
le premier moteur, puisque vous parlez de moteur.
Exactement.
Donc le premier c'est
moteur
vraiment la prière.
Pour la conversion. Faire grandir l'esprit de prière. Ensuite, le deuxième point, être beaucoup plus, fidèle à ce que l'Église demande dans la liturgie. Voilà, on est sorti des années où on a fait un petit peu n'importe quoi, etc. Et franchement, en voyant les informations, je me suis dit, tiens, c'est génial, le pape vient de lire mon livre. Parce qu'il vient justement d'appuyer sur ce point très important. C'est tout frais. Le pape nous demande vraiment d'avoir une attention pour la formation liturgique beaucoup plus importante. Eh ben, je suis 100% derrière le pape. Il a tout à fait raison.
Et ça passe par quoi, cette attention? Est-ce que ça veut dire que c'est de la formation? Est-ce que c'est des choses qu'il faut mettre en place? Des rituels qu'il faut mettre en place?
Alors, d'abord, si vous voulez, il faut comprendre que quand les gens viennent dans la paroisse, qu'est-ce qu'ils vont voir en premier? La marche sera très haute, mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église de Figeac et encore ce week-end, eh bien, c'est que vous avez des gens qui sont au fond de l'église, ils débarquent, souvent des jeunes, on voit bien qu'ils sont seuls, et en fait, ils vont venir à la messe. Voilà. Donc la messe du dimanche, c'est pas du tout... Enfin, c'est un truc, il faut vraiment hyper soigner ce moment, parce que c'est le moment de la rencontre. C'est là où les gens, en fait, vont être d'abord touchés. Ils vont rien comprendre, parce que c'est très difficile de comprendre la messe quand on n'a pas les codes. Mais ils vont être saisis par la beauté, ils vont comprendre le mystère. Eh bien, je crois que la liturgie, elle est au service de la révélation du mystère de Dieu. Hein, Jésus se donne son corps et son sang pendant la messe. Et si vous voulez, c'est quelque chose de sublime. Eh bien, il faut que les liturgies, elles témoignent de ce mystère et de ce caractère sublime, extraordinaire, de Jésus qui vient nous voir. Voyez-moi, ce dimanche, j'ai eu... Alors, c'était marrant parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas eu tous les codes. Et il me dit, ah ouais, bah, vraiment, j'ai bien aimé votre discours. Voilà. Et là, c'était le gars qui venait pour la troisième fois à la messe. Donc, ça voulait dire, bah, j'ai bien aimé votre homélie, etc.
Oui,
mais voilà. Eh bien, voilà, il faut qu'on ait une grande fidélité à ce que l'Église demande. Et l'Église, elle demande des choses... finalement assez simple. Mais même ces choses assez simples, vous constaterez en France, parce que, je ne sais pas, on a une espèce d'esprit révolutionnaire, ou on l'a eu, eh ben, on ne fait pas ce que l'Église demande. Eh ben, moi, je suis convaincu qu'il faut, voilà, il faut qu'on fasse mieux, parce qu'il faut qu'on soit toujours au service de la beauté qui révèle que Dieu est bon pour nous. Mmh. Voilà, et ça, c'est le deuxième point. Voyez.
Et vous écrivez que la messe dominicale est la source et le sommet de toute vie paroissiale. On le sait, hein, l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Pour soigner justement cette messe, ce temps, comme vous dites, où les gens qui débarquent ne comprennent rien, ça passe par des choses très concrètes. Qu'est-ce que vous avez mis, par exemple, en place dans votre paroisse pour que justement ce temps, cette messe soit célébrée dignement et qu'elle soit belle?
Alors, bah, si vous voulez, je pense que vraiment, c'est très spécifique à notre paroisse, puisque chaque paroisse est très différente. Mais nous, moi, j'ai voulu vraiment que, par exemple, les chants de la messe, en particulier celui du début, celui de la fin, soient vraiment des chants très joyeux. Voilà, qu'on entre dans la messe avec la joie dans le cœur. Donc, on a dû faire un travail sur le répertoire liturgique. Il y avait quelque chose qui en avait besoin, voilà, d'entrer avec beaucoup d'enthousiasme dans ce mystère, et puis après d'entrer dans la profondeur. Donc on a fait un travail donc sur nos homélies aussi. Les prêtres, nous, on se challenge, on se donne des grands objectifs, on se dit, en fait, on va pas parler pour les gens qui sont là depuis 10, 15, 20, 40 ans, 50 ans. On va d'abord parler à ceux qui débarquent aujourd'hui pour la première fois. Et donc on essaye vraiment de préparer très correctement, enfin de faire un maximum, de demander au Seigneur ce qu'il veut qu'on dise aux gens. Voilà.
Avec beaucoup de pédagogie alors.
Et ben voilà, avec beaucoup de pédagogie, en essayant d'éviter d'utiliser des mots qui sont des mots du sérail. Et puis en se disant, ben voilà, c'est vraiment cette personne que le Seigneur veut appeler à lui. Et du coup, Seigneur, ben qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et puis après. Ben voilà, il y a tout ce qui est autour. Vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire. Ça, ça peut être un critère pour toutes les paroisses du monde. Est-ce que quelqu'un qui rentre à la messe dimanche, comme ça, pour voir pour la première fois, est-ce que quelqu'un va lui adresser la parole? Et je vous promets qu'il y a encore des paroisses, et peut-être même chez moi, à certains moments, où des personnes vont pouvoir rentrer dans la communauté des chrétiens, c'est-à-dire la paroisse, et personne ne va leur sourire, personne ne va leur adresser la parole. Et ça, c'est pas normal, c'est plus normal. Vous voyez, si on dit que le premier besoin fondamental des gens qui viennent, c'est la fraternité, oui. Eh ben, il faut que cette fraternité, elle se manifeste. Et après, tout est possible pour manifester la fraternité. Mais il faut vraiment avoir conscience de cette réalité. Notre culture catholique... Moi, vous savez, quand j'étais petit... Je vais vous dire un truc, c'est quand j'étais petit, on m'a jamais rien dit. Hein. Mes parents m'ont certainement très bien éduqué, même si maman répétait souvent que j'étais un mal élevé. Mais en tout cas, quand on était à la messe, instinctivement, je savais, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait même pas que je me retourne vers mon voisin de gauche ou de droite, si jamais c'était quelqu'un, parce que sinon j'allais le gêner. Vous voyez, moi j'ai été, voilà, j'ai eu cette espèce de matrice où surtout on va pas gêner les autres, etc. Donc c'était un espèce de respect humain. Bon, c'est comme ça que je comprenais comme j'étais.
Comment? Chacun dans son couloir de nage.
Oui, ben exactement. C'est exactement ça. Ben si vous voulez, en fait, ça c'est clairement c'est quelque chose qui est culturel. Mais il faut absolument qu'on change ça.
Oui, et ça ne veut pas dire que c'est la foire et qu'on va discuter pendant la messe avec ses voisins.
Non, bien sûr que non. Bien sûr.
Alors, on va marquer une pause musicale, Père Guillaume Souris Lavergne, et puis vous nous direz, après cette pause, quel est ce troisième moteur de la conversion pastorale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Convertissons-nous, cette mission qui nous est confiée aux éditions Première Partie. Et donc, nous écoutons la musique du film Mission, qui a été écrite par Ennio Morricone.
Isabelle Duché.
C'est un appel à la conversion pastorale que nous lance l'abbé Guillaume Souris Lavergne, curé de Figeac, ce matin, face à l'afflux des catéchumènes et des raisons de désespérer, face à la baisse du nombre de catholiques pratiquants et de prêtres. Vous invitez à cette conversion. Le prêtre doit oser bouger, les laïcs aussi. Et vous nous avez donné, dans cette première partie d'émission, les deux premiers moteurs sur lesquels repose cette conversion pastorale, l'union à Dieu et la liturgie. Le troisième moteur, c'est la mission.
Et voilà, parce que en fait, quand on regarde un petit peu, si vous voulez, il faut comprendre que le prêtre donc est un élément fondamental dans la paroisse, Hein, et c'est peut-être celui qui doit entraîner, en fait. Il a été choisi par le Seigneur mystérieusement, mais il doit entraîner tout le monde dans un esprit de prière, il doit entraîner tout le monde, en fait, finalement, vers le ciel. C'est vraiment la mission hein, qui est celle de l'Église, d'être la porte du salut et le moyen du salut. Et aujourd'hui, en fait, le prêtre, il restitue notre façon d'être prêtre, si vous voulez, c'est beaucoup par mimétisme. Voilà, oui. On a vu, on a été formé par notre curé ou nos curés successifs, et puis un jour, on se lance, et donc, il y a beaucoup de choses qu'on va faire, ne serait-ce que par la formation au séminaire, etc., par mimétisme. Eh bien, il faut comprendre que, comme on avait la façon dont nous procédons aujourd'hui en paroisse, ça a été façonné par des siècles, hein, et puis en particulier, je vous ai dit, on s'est beaucoup focalisé sur le troupeau. Hein, les paroissiens qui sont déjà là. Eh bien, en fait, moi, je pense qu'à peu près 90% du temps d'un prêtre habituel va être consacré à la formation, à l'édification, etc., des chrétiens qui savent déjà où trouver Jésus, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà dans le sérail. Eh bien, en fait, la conversion, l'immense conversion que nous avons à faire, c'est que toute cette énergie que nous dépensons, et quand je dis nous, c'est les prêtres, les fidèles paroissiens qui sont vraiment engagés dans le destin de la paroisse, eh bien, toute cette énergie qu'on met normalement en direction de ceux qui savent déjà où est Jésus, eh bien, c'est de mettre 90% de cette énergie en direction de ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas encore dans le bercail.
Mmh. Et vous n'avez pas peur d'abandonner les autres ?
Non, ben, je crois pas. En fait, vous savez, quand on est, il faut comprendre que quand on est baptisé, on a tout. Quand on est baptisé, on a tout. On est si, en quelque sorte, on est branché sur le Seigneur. On est plongé en lui par le baptême. Et du coup, l'Esprit Saint, si on s'en donne les moyens et si on ne vient pas faire obstruction à son action, on est avec Dieu. Hein, le Seigneur a voulu. Et Emmanuel, il est avec nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Au nom de l'autorité que donne le baptême, eh bien, voilà, un paroissien, il est grand. Il est grand dans la foi à partir du moment où il a compris qu'il fallait prier, qu'il était uni au mystère du Seigneur dans son église. Voilà. Et donc, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que, en fait, quand vous allez faire l'effort, parce que c'est un effort culturel déjà, quand vous allez faire l'effort d'aller chercher ceux qui n'y sont pas, de faire entrer dans la paroisse tous ceux qui hier n'y étaient pas, eh ben je vous promets, et c'est vraiment ce que je peux en témoigner parce que c'est ce
oui,
qu'on
c'est
vit.
Ce que vous expérimentez.
Et voilà, exactement. Eh bien, il y a un enthousiasme qui arrive, il y a un développement de la créativité missionnaire qui est hallucinante. Vous voyez, ce soir, on a une réunion de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale. Eh bien, j'ai invité à cette réunion Camille qui finalement s'approche de Jésus. Là, elle va demander à faire sa première communion ou sa confirmation, je ne sais plus exactement, mais elle est à nouveau dans la paroisse alors qu'elle n'y était pas ne serait-ce que l'an passé. Eh bien, ce soir, je l'ai invitée à l'EAP. Pourquoi ? Parce que Camille a vécu le congrès mission à Paris il y a quelques jours, et pendant le congrès mission, elle dit « Ah ouais, j'ai plein d'idées pour accueillir les nouveaux venus, etc., parce qu'il y a ci, ça qui va pas. » Eh bien voilà, vous avez l'exemple typique de ce qu'apporte en fait la conversion d'une paroisse. Quand vous laissez la place à des personnes qui viennent de débarquer, elles n'ont pas le même point de vue que nous, elles ne sont pas marquées par la culture, par les conflits. Elle a un regard complètement neuf, sans aucun a priori. Et je suis sûr qu'elle va faire bouger les lignes ce soir.
Et concernant l'évangélisation à laquelle chaque chrétien est appelé, qui sont pour vous les personnes à toucher en priorité ?
Là, pour le coup, je veux dire, c'est...
Vous avez envie de dire tous ?
Exactement. Vous savez, le Seigneur, son projet, c'est de rassembler une unique famille, son peuple, son Église. Donc vraiment, c'est là aussi il faut. C'est vrai que c'est très difficile de comprendre au plus profond que tout le monde est appelé à connaître, à rencontrer Jésus-Christ. Hier, il y a un prêtre que je ne connais pas personnellement, mais grâce aux réseaux sociaux, voilà, il y a 10 ans, quand il y a eu le Bataclan, il a pris Salah Abdeslam en disant « Moi, maintenant, je te prends dans ma prière ». Et hier, il a posté un petit post, il a fait un petit post sur Facebook en disant, bah voilà, ça fait 10 ans que je prie pour sa conversion tous les jours. Je trouvais ça magnifique. Oui. Et moi, parce qu'il avait fait ça il y a 10 ans, c'est vrai que parfois je pense et j'ai une prière pour la conversion de ce gars qui a commis tant de mal. Voilà, je me dis c'est ça. Enfin, je crois que c'est ça qu'on devrait avoir comme regard, se dire même le gars qui est le pire des opposants, qui va même celui qui est capable de tuer des gens, eh bien, il faut espérer pour lui qu'il puisse rencontrer la douce lumière de Jésus-Christ.
C'était l'intuition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui priait pour Prandini, un grand criminel aussi. Hein.
Ah bah exactement. Ouais, toute la France était contre ce grand criminel et attendait une seule chose, c'était son exécution. Et elle, c'était peut-être la seule, alors qu'elle avait, je sais pas, elle avait 14 ans à l'époque, ou 13 ou 14 ans, eh bien, c'était la seule qui a pris ce gars dans sa prière. Ouais. Elle a demandé un signe au Seigneur de sa conversion. Et vous savez que juste avant de monter à l'échafaud, elle le raconte dans l'histoire d'une âme, ouais. Prandini, alors qu'il rejetait les prêtres, etc., il a pris 3 fois le crucifix dans sa main, il l'a embrassé. Ensuite, il a été exécuté et Sainte Thérèse a dit, bah voilà, là, c'est mon premier enfant.
Ah, magnifique. Il y a quand même une attention particulière aux hommes dans votre livre, puisque vous citez le Père Valet qui dit, lorsqu'un homme se convertit, ce n'est pas un homme seul, c'est une armée qui se lève. Comment vous faites justement pour attirer les hommes? On a toujours cette image des hommes au café et des femmes à l'église. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de marcher comme ça chez vous.
Alors, je ne sais pas si ça marche différemment chez moi. Non, là, c'est pas vraiment la question. La question, c'est j'ai été stupéfait de découvrir les résultats d'une enquête sociologique très sérieuse qui a été faite sur la transmission de la foi en famille. Et j'allais dire aujourd'hui, c'est un peu dans la transmission genrée, c'est-à-dire. Cette étude, elle étudiait en fait dans la famille, quand papa pratique ou quand maman pratique, c'est pas pareil. Eh ben, alors pour faire simple, j'ai plus tellement les chiffres en tête, mais j'ai grandes proportions. Grosso modo, dans une famille, quand il y a uniquement maman qui pratique avec les enfants, eh bien, il y a 30% des enfants eux-mêmes pratiqueront par la suite. Voilà. Alors que quand c'est uniquement papa qui pratique à la messe, maman pratique pas, et juste papa avec les enfants, eh bien 70% des enfants vont pratiquer par la suite. Ça veut dire très concrètement que, bah, là je suis désolé, hein, j'espère pas me faire taper dessus par tous les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le mystère de la transmission de la foi, en fait, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui passe de manière particulière par les papas ou par les hommes. Oui. Voilà. Et évidemment, c'est pour nous les prêtres, en tout cas vraiment comme prêtres, c'est un petit problème. Pourquoi? Ben parce qu'on est plus câblé pour parler envers les femmes. Notre humanité masculine, elle est faite quand on prêche, etc. On sait bien s'adresser aux femmes puisque notre nature nous conduit vers la femme. Parler à des hommes, eh ben, c'est pas forcément aussi facile.
Et pourtant, ce sont vos pères, donc c'est ça qui est étonnant.
Ben oui, mais on utilise, si vous voulez, pour attirer à Jésus, on utilise le langage qu'on maîtrise le mieux. Et généralement, le langage qu'on maîtrise le mieux, ben, c'est celui pour aller chercher l'autre.
D'accord.
Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir je pense qu'il faut avoir en paroisse une délicatesse, une culture particulière de la rencontre avec ces hommes pour pouvoir parler leur langage. Et ah, nous, alors très concrètement sur la paroisse, en fait, moi quand je suis arrivé, il y a des gens qui m'ont dit, des hommes, on aimerait avoir un groupe où on n'est que nous, un groupe des hommes. Alors finalement ça s'est fait. Et c'est vrai, là je peux en témoigner, que lorsque je participe au groupe des hommes, c'est une fois par mois, avec une formule très simple, hein, c'est rencontre fraternelle, une petite bière, une pizza, un topo, et on termine par la prière des complis. Dans une salle qui est sympa.
Ce qui est important, c'est la rencontre, la fraternité, comme vous disiez.
Voilà, et en fait, c'est vrai que moi-même, je peux vous dire que quand je participe au groupe des hommes, je suis plus un frère qu'un père. Donc, vous voyez, on est entre pères, alors là, P-A-I-R-S. voilà, c'est vrai que ça a une... Comment dire? moi-même, je peux vivre quelque chose qui est vraiment très différent dans les relations habituelles aux paroissiens.
Dans cet esprit de toucher les 90% du troupeau qui n'est pas encore dans le vert pâturage, vous avez ce propos très ferme à propos de l'engagement du prêtre dans la célébration des funérailles. Parce que vous dites qu'évidemment, dans cette célébration, on touche des personnes qui sont loin de l'Église. Comment concrètement répondre à un enjeu que l'on comprend comme essentiel ?
Alors là, je pense que je vais me faire assassiner par
je vous donne le bâton pour vous prêtres,
parce que dans beaucoup de lieux, en fait, les prêtres
c'est difficile.
Ont une tendance, oui, enfin, je ne sais pas si c'est difficile, mais ne comprennent pas comme moi l'importance qu'il y a à être présent comme prêtre aux sépultures. Voilà. Et alors, pour moi, en fait, il faut comprendre ce qu'est la sacramentalité de l'Église, où Jésus veut se rendre présent, et particulièrement au travers du ministère ordonné. Donc, il y a vraiment une question de théologie derrière. Mais le fait est que, si vous voulez, moi, je me dis, mais comme prêtre, voilà, j'ai des réunions, je rencontre des gens, il y a des gens qui se confient, on va donner des sacrements, on célèbre la messe, etc., etc. Mais franchement, quelle est la plus grande occasion d'évangélisation que je peux avoir dans ma journée, sinon celle de rencontrer des gens dont une grande partie ne viennent jamais entendre le message de l'évangile dans une église. Et là, pour les enterrements, ils sont là. Pour moi, c'est vraiment une occasion exceptionnelle d'évangélisation. Et ça tombe bien parce que je crois que je suis prêtre pour ça.
Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous donnez la formule, entre guillemets, que vous avez mise en place pour permettre aux prêtres que vous êtes et puis à vos vicaires d'être présents dans la célébration de ces funérailles. Peut-être
alors,
un dernier...
Là, il faut préciser. En fait, Isabelle, nous, ici à Figeac, on est plusieurs prêtres, on est trois prêtres, et puis il y a l'aumônier du Carmel. Donc, c'est possible pour nous d'être à toutes les obsèques. Mais non, ce que je présente dans le livre, en fait, c'est une sorte de plan de bataille, je ne sais pas comment dire, où pour rendre possible à un prêtre qui serait absolument débordé, eh bien, la possibilité de vivre, d'être présent à toutes les obsèques sans que ça soit un truc où il soit obligé de couler avec.
Oui, c'est ça. Il faut quand même.
Mais ça nécessite de changer de culture. Ouais. Mais là, j'invite vos auditeurs, chers auditeurs, à aller lisez ce livre et vous comprendrez.
Eh oui, lire ce livre et puis pourquoi pas l'offrir à son curé pour avoir des bonnes idées et arriver à se mettre en route. Un dernier mot peut-être, Père Guillaume Souris Laverne, sur cette conversion pastorale qui se fait en ayant déterminé la vision en fait. Quelle vision veut-on pour sa paroisse et puis une vision qui se décline après en différentes missions. Qu'est-ce que ça permet, ce travail ?
Alors là, oui, vous abordez une petite partie technique dans ce livre, hein, parce que ce livre, quand même, c'est un livre de stratégie paroissiale. donc, c'est pas un sport de masse, j'imagine. Mais c'est très intéressant, par contre. J'invite tout le monde à vraiment découvrir ce livre, parce que c'est passionnant.
Je confirme.
Voilà, la vision, en fait... pour élaborer une vision, il faut aller au confluent de trois influences. D'abord, ce que veut le Seigneur, ce que veut l'Église au travers de l'évêque, tout ce qu'il nous demande, ce dont ont besoin et ce que veulent les paroissiens, et puis ce que le pasteur a dans le cœur. Voilà, quand vous mettez en confluence en fait ces trois grandes motions intérieures, vous arrivez à découvrir un sens pour la paroisse. Parce que toute paroisse, elles sont toutes différentes, les paroisses.
Elle est unique, et puis l'Esprit Saint souffle différemment sur chaque paroisse.
Et oui, dans certaines paroisses, il va falloir développer, l'esprit de service auprès des plus pauvres. Dans telle autre, ça va vraiment être l'esprit de prière, parce qu'on est un peu à la ramasse. Bon, chaque paroisse est très différente. Et l'idée d'une vision, en fait, c'est un outil... qui est vraiment utile parce que ça permet de donner un cap à tout le monde. Dans la paroisse, il y a plein de groupes, il y a des mouvements, il y a des machins, etc. Bon, pour l'évangélisation, il faut coordonner sur une paroisse tous ces mouvements, toutes ces initiatives. Et il faut savoir, en fait, dire « Non, mais ça, c'est pas bon pour maintenant. » Parce que ça va pas dans le sens de la vision. Ou au contraire, ça, il faut l'encourager. Ou ça, il faut le créer.
Faire des choix.
Comment ?
Ça permet de faire des choix.
Exactement. Aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois, on hérite d'un grand navire qui s'appelle une paroisse, mais cette paroisse, elle a été formée par les siècles et elle n'est pas nécessairement adaptée à la situation d'aujourd'hui. Et je crois qu'on a une nécessité d'efficacité missionnaire plus grande. Voilà, on ne peut pas tout faire. L'énergie ni des paroissiens, ni des prêtres, etc., n'est infinie. Donc il faut faire des choix et il faut placer le maximum de l'énergie, de l'attention, de l'enthousiasme en direction d'une vision commune.
Voilà. Oui. Une vision commune, et puis c'est tous ces 90% de personnes qui frappent à la porte des églises et qui ont soif de cet amour de Dieu. Merci beaucoup, Père Guillaume Souris Lavergne. Je rappelle le titre de votre livre, Convertissons-nous, cette mission qui nous est confiée aux éditions Première Partie, et je le disais, un livre à offrir à son curé et à son équipe d'animation paroissiale. Je remercie aussi Radio Présence Figeac qui a assuré ce duplex. Merci à vous, Père Guillaume.
Merci, au revoir à tous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.